Bonjour, bienvenue à vous dans Babylone, votre émission des savoirs et des cultures. 40 ans après son édition définitive en 1972, le livre de l'écrivain suisse Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, publié la première fois en 1939, est un ouvrage quelque peu oublié aujourd'hui, mais qui reste pourtant une référence littéraire, philosophique, voire politique, importante. En écho à la parution cette année du Sexe ni la mort, le dernier livre du philosophe André Comte-Sponville, qui interroge les différentes formes de l'amour, nous revenons donc sur l'amour et l'Occident, qui oppose justement deux de ces formes d'amour, l'éros, c'est-à-dire l'amour passion, le désir, et l'agapé, l'amour chrétien ou l'amour vrai. Retour donc sur Archive avec l'historien Henri Guillemin, bien connu pour ses interventions à la radio et à la télévision, dont la lecture critique et passionnée de Denis de Rougemont et de L'amour et l'Occident fut diffusée en février 1968 sur les ondes de Radio Lausanne. Et puis bien sûr, Denis de Rougemont lui-même, rencontré par Gérard Valbert dans une émission diffusée en 1980 par la Radio Suisse Romande, pour évoquer dans son grand ouvrage « L'amour » et le principe fondamental du couple et de ses différences, ainsi que sa trajectoire intellectuelle et historique. En régie aujourd'hui, Jean-Philippe Svalen, avec Nicole Corpato pour le site internet, et David Collin au micro.
L'homme est à la fois libre et responsable. Et il est libre parce qu'il est responsable. Il est responsable dans la seule mesure où il est libre.
En 1939, quelques mois avant que ne soit déclenchée la Seconde Guerre mondiale, Denis de Rougemont faisait paraître l'un de ses ouvrages de référence, L'amour et l'Occident, qui connaîtra un grand succès public, qui sera traduit dans de nombreuses langues et qui connaîtra une édition définitive en 1972. Un ouvrage qui fait écho à la montée du totalitarisme, au poids des passions, à la destruction, qui fait l'éloge de la fidélité, de l'agapé contre l'amour-passion, prenant contre l'individualisme forcené de son temps, une éthique fondée sur la notion d'engagement, un engagement qui fera de lui l'un des premiers intellectuels francophones à se lancer dans la résistance à Hitler, ce que Denis de Rougemont évoquera en seconde partie de cette émission après avoir parlé également de l'engagement pour l'Europe et la culture européenne. Sachant que Denis de Rougemont, né en 1906, mort en 1985 à Genève, est un philosophe, écrivain, l'un des intellectuels suisses les plus importants du XXe siècle. Il est l'auteur de Politique de la personne en 1934, de Penser avec les mains en 1936 et de L'amour l'Occident en 1939, dont il donne les conditions d'écriture au micro de Gérard Valbert en 1980.
M'apercevant que j'aurais dû livrer à un éditeur L'amour et l'Occident, dont je n'avais pas encore écrit une ligne, je me suis jeté là-dessus et je l'ai écrit en 3 mois. En 3 mois, j'ai écrit 400 pages, je ne sais pas par quel miracle, je serais complètement incapable de le refaire aujourd'hui. J'étais quasi en état de transe. J'ai terminé ce livre qui était sur l'opposition entre l'amour vrai et l'amour action, comme je disais. Et l'amour qui peut répondre à cette injonction évangélique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est une action, car on ne peut, si c'était un sentiment, on ne pourrait pas le commander. J'opposais cet amour action, qui est l'amour vrai des êtres concrets, à l'amour passion, passion voulant dire ce que l'on subit, pâtir, pâti en latin. Et tout le livre était fait sur l'opposition entre amour-action, qui conduit au mariage, et l'amour-passion, qui conduit au roman, à la grande aventure romanesque. Celle qui est illustrée au départ par le grand mythe de Tristan, Tristan et Iseut. Alors, je recherchais de quoi était fait l'amour de Tristan et Iseut. C'est un amour que je définissais comme se nourrissant d'obstacles. Et plus les amants sont séparés, plus ils s'aiment, plus ils sentent leur passion. Si bien qu'on en vient à l'idée que ce qu'ils aiment, c'est se sentir amoureux, beaucoup plus que aimer réellement l'autre pour son bien. Et je développais ça avec une certaine passion. Pas beaucoup de gens ont dit dans les critiques que je semblais plus ému par la passion que par l'amour-action, finalement. Et il est évident que les critiques qui pensaient que j'avais parlé avec beaucoup plus de chaleur de Tristan que du mariage n'avaient pas tort. Et c'était une chose qui m'exaltait, qui m'émouvait profondément. J'étais pleinement conscient, n'est-ce pas, du lien entre les grandes passions totalitaires et la passion tristanienne. C'est pas pour rien que Hitler allait chaque année à Bayreuth, n'est-ce pas, qu'il était fou de Wagner. de Siegfried et de tout cela, mais aussi de Tristan, et qu'il pensait toujours que son aventure se terminerait dans une mort théâtrale et triomphale, comme dans beaucoup des opéras de Wagner. J'avais senti ça, je l'ai développé longuement, la relation entre l'amour-passion et la guerre, et ça a été un des éléments d'actualité profonde qui m'ont amené de proche en proche à m'intéresser à la culture européenne en tant que telle. J'ai trouvé dans mes recherches historiques que l'amour-passion était vraiment une création des Européens au Moyen-Âge. Et ça m'a amené à des considérations générales sur le développement de la culture européenne, jusqu'à des conclusions politiques, pas seulement morales ou philosophiques ou religieuses, ou littéraires, n'est-ce pas ? Et en somme, ça a été ma véritable introduction à ce qui deviendra, après la guerre, mon action européenne. Donc une introduction à partir d'une analyse de ce qui se passe au plus secret de l'homme. J'ai toujours suivi le même cours, une analyse de l'intime de l'homme, poursuivi de proche en proche, de conséquences concrètes en conséquences concrètes, jusqu'à une description de ce que je voudrais comme organisation de la politique, de la cité, de la communauté, qui est le grand mot qui relie un peu tous mes livres. Et le principe même de la communauté étant pour moi le couple, c'est-à-dire l'union de deux êtres différents qui sont unis dans leur différence, à cause de leur différence, et non pas par l'uniformité.
Après avoir entendu Denis de Rougemont évoquer les conditions d'écriture de l'amour et l'Occident, voyons maintenant l'avis de l'historien Henri Guillemin. Il le donne sur les ondes de Radio Lausanne en 1968 avec sa critique de l'ouvrage phare de Denis de Rougemont.
C'est en 1939 que Denis de Rougemont a publié les 350 pages de son livre « L'amour et l'Occident », un livre que j'ai pas oublié et qui se range, me semble-t-il, de soi parmi le petit nom des ouvrages dont une seule lecture ne suffit pas à révéler le trésor. C'est un livre qu'on reprend, c'est un livre qu'on rouvre, qu'on aime à garder près de soi pour l'interroger encore et encore, et pour le confronter avec notre propre cœur. Voyez-vous, dans ce bouquin, il y a deux choses, il y a deux idées absolument distinctes, il y a deux parties, hein. Il y a une partie historique et il y a une partie d'analyse sur l'amour. La partie historique prétend affirmer, c'était l'idée de Rougemont, que la passion, entendue au sens moderne du mot, serait quelque chose de relativement récent, un phénomène propre à notre Occident chrétien. Il dit que ça se rattache au mythe de Tristan et Iseult qui dominerait toute notre conception de l'aventure passionnelle. Et ce mythe, il y voit une espèce de parabole, dont le sens caché serait d'ordre religieux. Une parabole qui se rattacherait aux doctrines manichéennes des albigeois. Et même, il dit que les troubadours appartenaient à une franc-maçonnerie spirituelle, qui aurait fait d'eux les croyants de l'église cathare, les chantres de son hérésie. Et il dit aussi que le roman breton dériverait en réalité des thèmes du Midi qui sont tous chargés d'un même secret messianique. C'est la partie vulnérable, voyez-vous, du livre, parce que je n'en suis pas très convaincu. Quand je pense à Théocrite, Théocrite, il n'a rien de l'Occident chrétien. Théocrite nous représente dans sa fameuse pièce La Magicienne une femme qu'on voit complètement envoûtée. Est-ce qu'elle ne connaît pas cette passion, justement, qui nous est décrite? Cet appauvrissement, je cite, c'est du Rougemont, cet appauvrissement de la conscience, vidée de toute diversité. Cette obsession de l'imagination concentrée sur une seule image. Cette disparition autour d'elle de tout ce qui n'est pas ce visage et ce corps désiré. Ben oui, ça c'est dans Théocrite, voyez-vous. Puis il y a Phèdre. Alors vous me direz, Phèdre, on ne la connaît que par la transposition de Racine et que par conséquent, Racine faisant partie de l'Occident chrétien, mettons ça de côté. Bon, alors sautons jusqu'à la Bible. Mais il me semble que l'histoire de David de Bethsabée, c'est bien une histoire de passion aussi. Par conséquent, je suis pas absolument convaincu de tout ce que nous explique Rougemont dans la première partie historique de son travail. Je reconnais qu'il y a des notations intéressantes, que c'est appuyé par un nombre saisissant d'arguments et de textes, et que c'est très instructif. Néanmoins, ça me paraît conjectural. C'est pas ça qui est important dans le livre. Ce qui est très important, ce qui compte, c'est l'analyse qui nous est ici proposée de l'amour-passion, dans sa nature et dans son mystère. Ce sont des choses difficiles et graves que je vais essayer de vous expliquer. Alors j'irai peut-être un peu moins vite que d'habitude. Voyez-vous, le filtre qu'a bu Tristan et Iseult, qu'ont bu Tristan et Iseult, signifie, d'après Rougemont, le caractère fatal de la passion. L'être sur qui s'abat cet héros, les amants emportés dans ce vertige, accéderait à un absolu indicible, c'est une citation ça, un absolu indicible, incompatible avec les lois de ce monde. Et relisant ça ces jours-ci, je me suis aperçu que ça me remettait aussi en mémoire un livre que j'avais lu presque en même temps, ça devait être 38-39, de Georges Blon. Ce livre s'appelait « Prométhée délivré ». C'était une histoire assez banale, mais où il y avait deux ou trois pages qui me sont restées inoubliables. Le héros s'appelait Calviac, je crois que c'est comme ça, Calviac. Et on le voyait qui marchait dans une rue. Il marchait dans une rue, je me rappelle, qui était incendiée de soleil, pour aller retrouver la femme qu'il s'était mis à aimer. Et pendant qu'il marchait dans cette rue, sachant parfaitement que il habitait d'une petite ville, il était très connu, il avait plus ou moins abandonné sa femme pour aller retrouver cette autre femme, il savait que pesait sur lui une réprobation. Et cependant, pendant que ce type marchait dans la rue, il découvrait qu'il était jusqu'alors, jusqu'à ce moment où il avait aimé cette femme, comme absent de lui-même. Il était comme une ombre, comme un mort. Et qu'à présent, à cause de cette femme qui possédait son âme et sa chair, il avait le sentiment de vivre, enfin de respirer, d'exister. Il avait forcé les portes d'un royaume invisible. Il était entré dans l'univers de la vérité, si vous voulez. Alors, Rougemont, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Ben, il dit que c'est l'obstacle qui est le plus important, qui est indispensable à la vie même de la passion. Il dit que Tristan et Iseu s'en rendent parfaitement compte, que Tristan rend Iseu à Marc, après les 3 ans qu'ils ont passés ensemble dans la forêt de Morois. Mais ils ne renoncent pas l'un à l'autre, et s'ils se séparent, c'est pour se retrouver, avec encore plus d'emportement. Mais dans la forêt même, Tristan avait déposé un jour, c'est dans ses célèbres, vous savez, une épée nue, entre leurs corps, comme le rappel et comme le signe de cette loi qui proscrivait leur amour. Eux-mêmes, par conséquent, eux-mêmes, Tristan et Iseu, ils multiplient les obstacles dont leur passion a besoin pour survivre. Je cite encore, ils agissent comme s'ils avaient compris que tout ce qui s'oppose à l'amour le garantit, et comme si l'absence même et ses déchirements protégeaient cette passion qu'une présence continue risquerait d'exténuer. Attention, pour que l'obstacle ait toute sa force, il faut qu'il soit une interdiction. Tristan aimerait-il encore Iseu s'il pouvait l'avoir à lui pour toujours légitimement, quoi, s'il pouvait l'épouser? Serait-il heureux que nous cesserions peut-être de les suivre avec cette ardeur complice, cette fièvre qui nous associe à leur destinée? Il leur faut, comme il nous faut pour les aimer, un obstacle entre eux, une impossibilité. Bien mieux, dit Rougemont, il leur faut une interdiction. Il faut qu'ils attentent à une loi et qu'ils se sentent et que nous les sachions coupables. Il faut que leur amour soit une transgression, qu'ils soient à la fois les rebelles et les condamnés. Et Rougemont va encore plus loin dans son impitoyable avancement. Est-ce qu'ils s'aimeraient l'un, est-ce qu'ils s'aiment l'un l'autre, véritablement? Je veux dire, tels qu'ils sont, Tristan, Iseu, dans leur personne humaine, dans leur réalité irremplaçable, avec tout ce qu'ils ont, quoi, corps et âme, de bien et de mal en eux, de noblesse et de misère, de médiocrité et de grandeur, est-ce que l'un songe au destin de l'autre, au salut de l'autre, à ce drame simplement de vivre, à cette partie que doit jouer avec elle-même perpétuellement toute créature? Est-ce qu'ils songent vraiment à ça, à s'entraider s'il est possible dans leur sombre pèlerinage? Écoutez Rougemont, ce qu'ils aiment, ce n'est pas lui, elle, lui. Ce qu'ils aiment, c'est l'amour, c'est le fait même d'aimer. Ils croient se voir et ne se voient pas. Ils chérissent seulement cette blessure qu'ils se sont faite l'un à l'autre. Et leur tourment délicieux, c'est l'expression même du vieux texte, et leur tourment délicieux, ils veulent surtout n'en pas guérir. Continuons. Amour-passion, dit Rougemont, c'est le désir de ce qui nous blesse et qui nous anéantit dans son triomphe. C'est une préférence intime pour le malheur. René de Chateaubriand, symbole de ces cœurs nocturnes, René n'aime pas le bonheur. Je crois qu'il nierait, qu'il s'insurgerait si nous le lui disions. Mais le sens réel de la passion est tellement effrayant et inavouable, écrit Rougemont, que ceux qui la vivent ne sauraient prendre aucune conscience de sa fin. Non pas le repos, mais le péril. Pas la clarté, mais la flamme. Cette joie torturante des passions, mille fois préférée au bonheur, béatitude tout de même, mais au sein du feu, une béatitude ardente. Au fond de ces amours terribles palpite une passion active de la nuit. C'est pas moi qui parle, c'est Rougemont. Une passion active de la nuit. Une aspiration vers la mort. L'amour-passion, selon lui, débouche sur la mort. Et Rougemont aperçoit même dans ce goût aveugle de ce qui nous détruit la racine de l'instinct de la guerre. Nous la maudissons, nous en avons peur, et l'image, en même temps, de ce qui la prépare ou qui l'accompagne, suscite au plus secret de notre cœur je ne sais quelle affreuse connivence, comme une adhésion à voix basse. C'est très fort, hein, c'est évidemment saisissant, ça vous reste dans l'esprit. Mais essayons d'échapper à l'envoûtement de ce texte et de voir ce que nous pourrions en penser nous-mêmes. La sexualité est dans la passion, elle est la source de la passion. Mais est-ce qu'elle est toute la passion? Quelle est donc cette énigme? Quelle est donc cette profondeur de ténèbres où la convoitise, l'appel élémentaire du désir semble ainsi sous-tendre et créer un amour d'un autre ordre, un appétit d'éternité? Ce visage que nous aimons et qui nous fait chérir un être au point que nous donnerions tout pour lui, ce visage, s'il cessait tout à coup de nous paraître adorable, si ce corps cessait de nous attirer, alors tout s'en irait en même temps de cette tendresse que nous avions prise pour l'amour. Or, nous savons bien qu'il se flétrira, ce visage. Nous savons bien que ce beau corps vieillira. Alors la preuve est faite, alors tout amour dont nous avouons qu'il est aussi désir, n'est donc tout au fond que désir, que cela. Alors loin d'être délivré, le Prométhée dont je vous parlais tout à l'heure, le Prométhée de Georges Blond, pénètre sans le savoir dans une servitude inexprimable, dit Rougemont. Et pourtant, tels mots de Chateaubriand, tels aveux de Barrès me reviennent en mémoire, c'est vrai, la mort exerçait sur eux un attrait dont leur lucidité mesurait le pouvoir. L'approche du trépas serait-elle seulement l'aiguillon de la volupté? Les amants du roman breton et de Wagner, est-ce qu'ils fuient dans la mort la honte, comme dit Mauriac, la honte de ne plus s'aimer? Ou bien est-ce que la mort n'est pas pour eux l'épreuve transfigurante, la possession enfin de cette plénitude, de cette paix du cœur que rien ici-bas ne pouvait leur donner, la douleur qu'ils aimaient, peut-être parce qu'ils y voyaient confusément un moyen de connaissance, un chemin vers la vérité qui les comblerait. C'est ici qu'intervient, comme correctif, toutes ces choses que Claudel nous a dites et dont j'ai beaucoup parlé dans le soulier de Satin. Et je dois vous dire aussi que le second livre que Denis de Rougemont a écrit sur le problème et qui s'appelle Comme moi-même, comme toi-même, ce livre apporte lui-même des retouches à ce qu'il avait dit autrefois. Je ne suis plus sûr que le Rougemont d'aujourd'hui signerait ce qu'il avait écrit dans son livre de 1939. Prenons l'essentiel du partage de midi. Enfin, comment les choses se présentent? Pas du partage de midi, non, je dis bien du soulier de Satin. Mais peut-être faut-il remonter au partage de midi pour voir quelle était la proposition que Claudel nous faisait là-dessus. Dans le partage de midi, vous savez, c'est un homme et une femme qui ne peuvent pas s'aimer parce que la femme est mariée, elle a trois enfants, elle a son mari. Et pourtant, elle s'est donnée à un homme qui s'appelle Méza, la femme s'appelle Isée. Bien. Ils vivent un an ensemble, ça va pas. Enfin, ils sont déchirés parce que l'homme se rend compte que le bonheur est impossible, parce qu'il est en train de faire précisément une transgression, parce que elle-même était trop contente de cette transgression. Il y avait une espèce de provocation en elle. Elle sentait qu'elle avait remporté une victoire sur les idées mêmes que se faisait cet homme. Enfin, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés. Puis ils vont se retrouver à la suite de diverses péripéties. Et alors, tout à la fin, on les voit qui sont dans une maison qui va exploser. Enfin, il va mourir, lui, elle va mourir, elle la rejoint au moment où la maison va exploser. Et quand il pense à ce qu'il y a derrière la mort, il pense entre possessions permanentes. Lui, le Méza, c'est un homme qui se disait chrétien, mais je vous assure qu'au moment où il va mourir, il pense pas tellement au bon Dieu. Il ne pense absolument pas à ce que l'on appelle la présence, la participation divine, enfin la vision béatifique. Il pense qu'il aura cette femme éternellement entre ses bras. Dieu sera une espèce d'aubergiste de la grande auberge du paradis qu'on salue en passant avec politesse, mais c'est pas lui qui est intéressant, c'est elle qui est intéressante. C'est là où on voit la puissance wagnérienne qui est dans le partage de midi. Alors vous sautez les années, vous arrivez 20 ans plus tard, et vous voyez Claudel qui reprend ce même problème de la passion dans le soulier de Satin. Dans le soulier de Satin, c'est deux êtres plus jeunes qui pourraient s'aimer. Vous allez voir comment. Il y en a une qui est mariée, en effet, c'est la petite Prouèze, et celui qu'elle aime, il s'appelle Rodrigue, mais Prouèze a un vieux mari, il est possible que le mari disparaisse et qu'il soit donc capable de s'aimer, de s'entreposséder. Or, cette petite n'a pas voulu se donner à Rodrigue précisément parce qu'elle était mariée, qu'elle attachait du prix à la promesse qu'elle avait faite. Puis il est parti, Rodrigue, ils se sont séparés, elle l'a embrassé juste une fois, une seule fois, il est parti au-delà de la mer, il a disparu, donc il est insaisissable pour elle, elle est devenue veuve, elle a épousé un autre homme, qui s'appelle donc Ami. Mais cet homme méchant la frappe, la bat, la brutalise. Alors elle appelle au secours son Rodrigue. La lettre va mettre 10 ans à parvenir à travers les mers. La lettre à Rodrigue, c'était une espèce de légende. Enfin, elle allait de port en port, elle était dans des bouteilles à la mer, elle était remise à des matelots qui faisaient naufrage. La lettre ne parvenait pas. Elle parvient au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, Rodrigue, qui aime toujours cette femme, traverse la mer à toute vitesse pour aller retrouver cette prouesse qui l'a appelée au secours. Qui lui a dit, il y a 10 ans, viens me chercher, je serai ta maîtresse, enfin, je t'appartiendrai. Seulement 10 ans ont passé. Et pendant ces 10 ans, la petite prouesse, elle a beaucoup réfléchi. C'est là où Claudel a fait intervenir littérairement son ange gardien, qui a parlé à la petite. Tout ça, c'est une transposition littéraire, et du reste très belle et très poétique, pour dire qu'elle avait fait beaucoup de réflexions sur les sentiments qui la portaient vers ce Rodrigue, et sur les sentiments même que Rodrigue nourrissait à son égard. Alors elle a bien réfléchi. Et quand Rodrigue se trouve en face d'elle au bout de 10 ans, elle lui dit « Ce que me demandaient tes yeux autrefois quand tu me regardais avec un tel désir, cette passion de bonheur inouï que tu me réclamais, enfin, j'étais pour toi comme une image du bonheur. Je ne l'avais pas en moi, que veux-tu, je ne suis qu'une femme. Mais j'ai essayé de l'avoir pour te le donner. Et je l'ai maintenant, lui dit-elle, et je ne suis plus capable de promettre, mais seulement de donner. Alors, prends, Rodrigue, prends mon amour, cette flamme qui me remplit, la force par laquelle je t'aime, n'est pas différente de celle par laquelle tu existes. Je suis uni pour toujours à cette chose qui te donne la vie. » Et elle quitte Rodrigue à ce moment-là pour retourner dans sa citadelle de Mogador qui doit exploser encore le soir même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cette femme s'est bien rendue compte qu'elle était incapable d'apporter à Rodrigue ce bonheur qu'il lui demandait. Et comme elle sentait que derrière l'amour que Rodrigue lui portait, ou le désir que cet homme lui portait, il y avait une espèce de réclamation infinie, vous savez, démesurée, à laquelle elle était incapable de donner la même réponse. Elle avait cherché à posséder un bonheur parfait pour le lui remettre. Ce bonheur parfait, selon elle, c'était l'idée de l'appartenance de l'humanité, de notre âme, enfin, de notre existence, de notre vie, à la vie avec un grand V. De notre âme à Dieu, de la vie à cette force qui est Dieu et qui est aussi la vie. Et c'est ça qu'elle voudrait apprendre à Rodrigue. Elle lui dit, je vais mourir maintenant, je ne peux pas t'appartenir, il n'y a pas moyen. Du reste, si tu le et tu l'exiges, je me donnerai à toi, mais je sais bien que tu ne vas pas l'exiger. Et en effet, Rodrigue baisse la tête et pleure. Comprends donc simplement que ce qui nous a été fait dans cet amour, ce qui nous a été donné, c'est une annonciation, c'est quelque chose comme un signal, quoi, comme une signalisation, comme une annonce, comme des prémices de ce vers quoi nous allons et qui est un bonheur total. Alors là, cette fois, Wagner est exorcisé, vous comprenez? Le Claudel de 1925, quand il écrit le Clouet de Satin, n'est plus le Claudel wagnérien de 1905. C'est quelqu'un qui ne voit plus l'au-delà comme une entre-possession, mais alors comme une espèce de partage fraternel, pas le partage de midi, si vous voulez, mais le partage du soleil. Le soleil étant la présence divine et la joie de l'au-delà. Voilà ce qu'il a dit Claudel. Alors c'est pas une condamnation de la passion. C'est plus du tout l'idée que la passion débouche sur la mort avec une complaisance pour la mort, avec un goût de la guerre, avec une espèce de goût de l'agression et de la transgression. C'est là où Claudel s'oppose complètement à Denis de Rougemont. Et je vous avoue que tel que je suis aujourd'hui, avec mes 65 ans, c'est du côté de Claudel que je suis. Quand je réfléchis à tout ce qui nous a été dit, quand j'ai lu encore récemment ces beaux livres de Sullivan, dont je vous ai parlé plusieurs fois, Sullivan, c'est ma découverte de l'année dernière, quand je le vois écrire des choses comme ceci, ceux qui s'aiment accèdent à un au-delà de la vie, qui est ici même. Ou encore, ceux qui s'aiment accèdent à cette vie qui est plus que la vie, qui est au cœur même de la vie. J'ai l'impression que c'est dans cette direction qu'est la vérité. Chaque destin a son mystère. Le monde, s'il pouvait y lire, il irait mal, soyez-en sûrs, et il s'égarerait. Mais Dieu sait ce qu'ignore le monde. Il sait même qu'il est des rencontres où le mal, selon la lettre, n'est plus le mal selon l'esprit, et où l'âme trouve dans la brûlure de la passion une révélation de l'infini.
Vous écoutez Babylone, espace 2, hommage à Denis de Rougemont, 40 ans après l'édition définitive de L'amour et l'Occident, un ouvrage qui fait déjà figure d'engagement, thème de toute une vie d'intellectuel qu'évoquait à l'instant Henri Guillemin et sur lequel revient Denis de Rougemont au micro de Gérard Valbert en 1980, surtout la question d'engagement sur les ondes de la radio suisse romande.
Alors Denis de Rougemont, quand on étudie les années 30 à Paris, le milieu intellectuel, on s'aperçoit que vous jouez tout de suite tout de même un rôle considérable, que votre nom se trouve parmi les noms le plus souvent cités à l'époque.
Non, pas tout de suite. Je dirais que, je réitère, j'ai eu des débuts, tout ce qu'il y a de modeste. J'ai fait donc mes 4-5 années d'études dans ces pays différents. Mon année d'Autriche a été très importante pour moi, non pas à cause de l'université, où je n'allais presque jamais, mais à cause de la connaissance plus intime du monde germanique, et aussi de la Hongrie, au passage, de l'Italie du Nord, où j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là, mais pour de toute autre raison qui n'avait rien d'universitaire. Et j'avais été formé par ces influences, n'est-ce pas, Piaget, Saussure, Freud, Vienne, le romantisme allemand. Quand on m'a offert de devenir le directeur d'une petite maison d'édition protestante en train de se former à Paris, qui n'existait pas encore, et qui portait le titre un peu ridicule de « Édition Je Sers ». On m'a offert ça quand je venais de passer ma licence. Alors, la seule idée que je pouvais aller à Paris, qui était pour moi le centre de la littérature mondiale, n'est-ce pas, l'endroit où se publiait la Nouvelle Revue Française, qui était pour moi le temple, le lieu saint de la littérature, où officiait Jean Paulhan, qui m'avait déjà fait l'énorme honneur de m'écrire une ou deux fois à propos de petits articles parus ici ou là, de m'offrir de publier dans sa revue. Ce qui était pour moi le pinacle, le sommet d'une carrière, publié dans la Nouvelle Revue Française. Rien aujourd'hui ne peut donner l'idée de ce que représentait la NRF pour les gens de ma génération.
C'était en quelle année, vos premiers articles?
C'était en... mes tout premiers articles, je les ai publiés en Suisse, déjà à l'âge de 17 ans. J'ai publié mon premier article sur un livre de Monterland sur le football, parce que j'étais passionné de football et je jouais au goal. J'ai découvert que Monterland aussi jouait au goal. Il m'a envoyé des photos de lui en casquette et maillot, avec des gros gants comme on avait les joueurs de les goalkeepers à l'époque. Et tout ça me passionnait beaucoup. Et alors, j'ai ensuite publié dans plusieurs revues françaises ou dans la revue de Genève, ici, qui était déjà beaucoup plus importante et plus internationale. C'est là que Paulhan m'avait lu, je pense. Mais à part lui... et encore par correspondance, je ne connaissais pratiquement personne dans la littérature française, de connaissance directe. J'avais rencontré une ou deux fois un ou deux écrivains. Ça, quand j'étais dans la société de Belles Lettres à Neuchâtel, nous faisions venir des écrivains français, et nous passions quelquefois une soirée avec eux, mais c'était très peu de choses, c'était pas des connaissances personnelles. Alors, je suis arrivé à Paris... un petit Neuchâtelois, bon, qui a publié quelques articles, mais que le public ne connaissait absolument pas, et qui devait organiser une maison d'édition sans rien savoir de son métier. Alors, je me rappelle que ça se passait à Issy-les-Moulineaux, cette maison d'édition, Je Sers. Moi, j'habitais un petit hôtel à Paris, à côté de l'Odéon. Je prenais le train à la gare Montparnasse tous les jours, et j'allais, pour 7h du matin, à mon bureau dans cette imprimerie et maison d'édition Je Sers. Alors, de temps en temps, quand j'étais confronté à des problèmes difficiles, techniques d'édition, je ne savais rien, j'allais à Paris me promener chez quelques éditeurs où j'avais des amis suisses. Et j'en profitais pour leur poser des questions en douce, comme ça, sans avoir l'air de rien. Je leur demandais qu'est-ce que ça veut dire un 13-12, qu'est-ce que c'est la remise au libraire, enfin, le béaba du métier, n'est-ce pas? J'ai finalement appris ce métier, c'est à peu près le seul métier que j'ai vraiment appris, et que je sache encore très bien, qui est le métier d'éditeur. Et ça me laissait quand même un peu de temps le soir pour aller à différents groupes qui m'intéressaient. Il y avait un groupe œcuménique où j'ai rencontré un garçon qui m'a beaucoup plu, qui s'appelait Emmanuel Mounier. Et j'ai rencontré aussi Berdiaïev, qui était le grand auteur russe de l'époque, maritain. Et puis des jeunes gens comme Alexandre Marc, Robert Aron, qui m'ont parlé de leur projet. Ils étaient en train de former des groupes. Il y en avait un qui s'appelait le groupe Esprit, autour de Mounier. Un autre qui s'appelait le groupe de l'Ordre Nouveau, autour d'Alexandre Marc, de Arnaud Dandieu et Robert Aron.
Aucun rapport avec le fascisme?
Absolument. C'est un titre qui a été volé, n'est-ce pas, d'abord par les nazis. Hitler a prétendu qu'il installait l'Ordre Nouveau en Europe. Il disait le nouvel ordre, mais en France, on a traduit ça un peu pour nous embêter par l'ordre nouveau. Et après la guerre, après la dernière guerre, il y a eu des groupements fascistes, avec des casques et des boucliers qui se sont appelés ordre nouveau. La seule différence, c'était qu'ils n'avaient supprimé le L'. Mais aucun rapport avec nous. Nous n'avons pas réussi à faire supprimer ce titre. Il paraît qu'il n'y avait pas de propriété du titre d'une revue qui ne paraissait plus. Ceci dit, n'est-ce pas, je me suis mêlé très vite, je dois dire, à des groupes différents, mais reliés plus ou moins entre eux, une trentaine, une quarantaine de jeunes gens, à peu près de mon âge, nous avions entre 24 et 28 ans, à peu près, qui ont formé toute une génération qui a marqué pas mal l'évolution intellectuelle en France. On fait pas mal de thèses ces temps-ci là-dessus. La première qui est apparue il y a quelques années au Seuil s'appelle « Les non-conformistes des années 30 ». dire que j'ai été très connu en France à ce moment-là, ce serait tout à fait excessif. Nous étions des, ce qu'on a appelé plus tard des groupuscules.
C'est ça.
Des groupuscules réunis par une doctrine à peu près pareille, avec des variantes de l'un à l'autre, de la personne. Nous considérions que la personne, c'est... Enfin, moi, je considérais, parce que les autres auraient donné peut-être d'autres définitions. Moi, je disais que la personne, c'est l'individu distingué de tous par une vocation unique qu'il a mission de réaliser dans sa vie, même s'il ne la connaît pas très bien au départ. Il doit se faire en la poursuivant et en cherchant un but final, d'où lui vient cette vocation. L'exercice même de cette vocation le distingue de tous les autres, lui donne sa personnalité, sa personne, mais le relie aux autres. Parce que une vocation, ça ne se fait pas tout seul dans un coin, dans une caverne. Ça se vit, ça se réalise, ça s'expérimente dans la communauté, c'est créateur de communauté. Donc ça, c'était notre mot de passe, si vous voulez, de la personne à la communauté. Un des tout premiers livres d'Emmanuel Mounier, le directeur d'Esprit, s'appelait « Révolution personnaliste et communautaire ». Ça, c'était notre découverte, si vous voulez. Nous disions, nous ne sommes ni individualistes, ni collectivistes, nous sommes personnalistes et communautaires. Vous voyez la double opposition de l'individu et de la personne.
On le voit très bien.
De la collectivité et de la communauté.
Et ce sont des idées qui sont très actuelles aujourd'hui, qu'on reprend.
Qui ont été tournées en dérision par les partis à l'époque, trouvant que ça n'avait aucune espèce d'importance. Que ce qui était important, c'était de savoir si on était de droite ou de gauche, n'est-ce pas ? Et nous nous battions beaucoup pour dire nous sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes en avant. Ces histoires de droite et de gauche ne mordent sur aucune des réalités importantes de la vie humaine. Nous voulons repartir d'une définition solide de l'homme et de son rôle dans la société, dans la communauté. Et autour de ça, nous avons donc bâti ces mouvements personnalistes qui étaient limités, en nombre, extrêmement limité. Le tirage de nos revues était ridicule, n'est-ce pas ? Nous arrivions à 7 000-8 000 au grand maximum. Et quand nous faisions des livres, ils se vendaient à 2 000 exemplaires. Alors, peu à peu, nous nous sommes non pas imposés, mais nous avons acquis une sorte d'autorité qui s'est manifestée plus tard à travers les mouvements de résistance. Dans tous les pays, je dis bien tous, y compris l'Italie, et l'Allemagne, où nous avions beaucoup d'amis, dissidents de l'hitlérisme et du fascisme, ou prisonniers dans les camps des îles Lipari. C'est dans un camp d'une des îles Lipari, Ventotene, qu'a été rédigé le premier manifeste fédéraliste européen en 1942. Miraculeusement, il a circulé ensuite dans toute l'Europe.
On peut dire que le déni de Rougemont des années 30 était déjà européen. Il y avait votre expérience de l'Allemagne, du romantisme allemand, vos affinités avec des auteurs.
C'est ça. Moi, j'étais le plus intéressé, si vous voulez, aux choses allemandes dans ces groupes. D'autres étaient plus intéressés aux choses américaines et anglaises, tous français ou suisses. Mais moi, je ne faisais plus tellement la distinction. J'étais complètement mêlé à tout ce mouvement français. Il m'arrivait de dire « nous ». En toute innocence, en parlant des Français dans mes articles d'Esprit ou de l'Ordre Nouveau, n'est-ce pas ? Ma tâche particulière était d'introduire certaines idées sur le fédéralisme, que je connaissais un peu, pas encore beaucoup, de la Suisse, des rares notions que j'avais par où font l'école, par les leçons d'instruction civique. Je ne m'étais pas beaucoup intéressé à la politique en Suisse, je dois dire, avant d'aller à Paris. Et je devais introduire un certain nombre d'idées qui venaient de la Suisse et un certain nombre de concepts qui venaient de l'Allemagne. Alors, ça tombait très bien. J'étais enthousiaste de Goethe. Je crois que je vous l'ai déjà dit, du plus grand poète peut-être du 19e, qui était Hölderlin. Et un peu plus loin, mais toujours dans le monde germanique, de Kierkegaard.
Kierkegaard, que l'on connaît en Suisse romande grâce à vous, hein. En tout cas, vous avez
que
fait beaucoup
on ne
pour
connaissait
lui.
Absolument pas en France, n'est-ce pas ? Je me faisais rire au nez quand je proposais des articles sur Kierkegaard. On me disait, qu'est-ce que c'est ? Comment vous écrivez ça ? dans les revues françaises. Enfin, c'était des colibets, n'est-ce pas, quand je voulais parler de Kierkegaard. Finalement, j'ai réussi à publier un ou deux livres de Kierkegaard dans mes petites éditions Je Serre, protestantes. Et puis, d'autres s'en sont occupés, comme le philosophe Jean Val et quelques autres. Si bien que, on peut dire que Kierkegaard est devenu presque à la mode en France dans les années 35 à 39. En même temps, un autre auteur que j'avais découvert, qui commençait aussi par K et qui était un grand disciple de Kierkegaard de son côté, c'était Kafka. Et j'ai fait le premier article un peu développé sur Kafka dans la Nouvelle Revue Française, à propos du château. Et j'ai demandé, après quelque temps, à Jean Paulhan s'il savait combien on avait vendu d'exemplaires du château. Il m'a dit, je crois, 5. C'est monté, quelque temps après, à 25. Et ceci pour vous dire quelles difficultés nous rencontrions à introduire tout un mouvement, tout un réseau d'idées nouvelles que nous appelions existentielles. N'est-ce pas? Sartre n'était pas du tout intervenu à ce moment-là. Il s'occupait tout à fait d'autre chose. Nous ne le connaissions absolument pas. Il ne nous connaissait pas. Et il ne s'intéressait en rien à la politique ni au personnalisme. Nous avions éprouvé une terrible résistance à introduire ces notions de personne, d'existence opposée à l'essence, d'existence réelle. Prendre l'homme dans ses conditions concrètes. C'était ça que nous appelions philosophie existentielle, d'après le titre de la philosophie de Kierkegaard, et aussi d'après un concept non, je voulais dire d'après le titre même de la philosophie de Heidegger, et d'après un des concepts fondamentaux de Kierkegaard. Tout ce qui n'est pas existentiel, n'est-ce pas, est abstrait, n'a pas d'importance pour la vie de l'homme. À partir de cette idée, n'est-ce pas, que les idées d'un homme doivent être vécues, que sa vocation doit être manifestée dans la cité, dans la communauté, et qu'elle est créatrice de communauté par la même, et ça m'avait amené tout naturellement, et d'ailleurs d'autres de mes amis aussi, Emmanuel Mounier, à l'idée de la littérature engagée. Engagée, pour nous, ne voulait absolument pas dire s'inscrire dans un parti, loin de là. Ça, c'était s'embrigader, c'était pas s'engager. Nous pensions que l'engagement de l'écrivain provient du sérieux même avec lequel il vit ce qu'il écrit. Et qu'il ne peut pas faire autrement que d'assumer les conséquences dans la vie, dans sa vie d'abord, et ensuite dans les répercussions que ça peut avoir sur la communauté. J'avais été jusqu'à écrire que la littérature ne retrouverait un peu de sérieux que si ce que nous écrivions devenait, à cause d'une censure instaurée, passible de peines graves, peut-être de prison, voire de peine de mort. Eh ben, je peux dire que j'ai été servi par la suite, n'est-ce pas, à cet égard. On m'a bien appris ce que c'était que la responsabilité d'un écrivain, comme par exemple quand j'avais écrit cet article sur Hitler à Paris. N'est-ce pas? On m'a tout de suite fait comprendre que bon, je devais assumer les conséquences de l'affaire et que mon engagement se traduisait par 15 jours de forteresse. Ceci est un petit exemple, mais d'une manière générale, j'avais traité le sujet beaucoup plus à fond dans mon premier livre publié à Paris en 1934 qui s'appelait « Politique de la personne ». Le premier chapitre s'intitule « L'engagement de l'écrivain ». Le deuxième chapitre s'intitule « Ridicule et impuissance du clerc qui s'engage », où je montrais à quel point la volonté des intellectuels français, notamment, de vouloir jouer un rôle politique et public était grotesque. Signer un manifeste ou des choses comme ça, je disais, c'est pas ça l'engagement. Ça, c'est ridicule et c'est impuissant. L'engagement véritable, alors que je défendais dans tout le reste du livre, c'est d'assumer les suites de ce qu'on écrit, d'écrire d'une manière responsable. Jusqu'à accepter les conséquences peut-être très pénibles. Bon, alors nous avons fait, à peu de temps de là, quand nous avons lancé la revue Esprit, nous avons fait, d'entente avec Emmanuel Mounier, une rubrique permanente qui s'appelait « La pensée engagée ». À partir de 1935, on trouve ça dans la revue Esprit. Notez bien que, je le répète, Sartre était totalement inconnu. il n'avait rien écrit à ce moment-là.
Mais Sartre vous reconnaît comme précurseur.
Non, pas du tout. Il a simplement pris son bien où il le trouvait.
Et d'accord, tout le monde s'est mis quelquefois.
Bon, il me cite une ou deux fois quand il ne peut pas faire autrement. Mais il ne me cite pas sur les choses les plus importantes, qui sont l'engagement, où tout le monde a dit l'engagement, comme dit Sartre, après la guerre.
Là, on est d'accord.
Et sur une autre phrase qui était absolument fondamentale dans tous mes premiers écrits, qui était cette définition toute simple de l'homme, mais qu'on n'avait pas faite avant. L'homme est à la fois libre et responsable. Et il est libre parce qu'il est responsable. Il est responsable dans la seule mesure où il est libre.
Denis de Rougemont.
Je vivais avant la guerre à Paris, de 36 à 39. J'avais vécu à Paris, auprès de Paris. Et Paris était ma ville. C'est là que j'avais tous mes intérêts, ma famille, bien qu'ayant été élevé en Suisse, à Neuchâtel, n'est-ce pas, mais j'étais complètement mêlé à tout ce grand débat d'idées avant la guerre, qui annonçait la guerre et qui d'avance prenait position contre tous les totalitarismes, mais aussi contre un certain libéralisme à volo, et capitaliste et autres. Et j'étais complètement dans le bain parisien. Oui, Paris était ma ville. J'en étais éloigné, naturellement, par la mobilisation qui m'a ramené en Suisse.
Où j'étais. Et vous étiez officier dans l'armée suisse.
J'étais premier lieutenant à l'état-major à Berne. Et quand, le 16 juin, non, le 15 juin, le samedi 15 juin, j'allais quitter mon bureau à Berne à midi, quand mon ordonnance est entrée dans ma chambre et m'a dit « on vient d'entendre à la radio » que Hitler est entré à Paris. J'ai dit, bon, disposé. Je suis resté sans voix pendant un certain temps, complètement stupéfié par la nouvelle. Et puis, j'ai pris la plume et j'ai écrit une page et demie sur cette entrée d'Hitler à Paris. C'est cette page que vous me demandez de lire et que je vais lire. Et je la lis d'autant plus volontiers qu'elle a joué un rôle dans ma vie, quel que soit le rôle qu'elle ait pu jouer à l'extérieur. En Suisse, elle a joué un rôle capital, un rôle de charnière, car c'est à cause de cela que j'ai été envoyé en Amérique peu après et que le cours de ma vie s'en est trouvé matériellement complètement changé. Voici ce que j'ai écrit donc là d'un trait de plume que j'ai recopié et envoyé à un journal en lui disant voyez si vos prescriptions de censure vous permettent de publier cela. J'étais à peu près sûr qu'il ne pourrait pas. Vous allez voir pourquoi si je vous relis ça. Ça s'appelait « À cette heure où Paris » quelques points. « À cette heure où Paris exsangue, voile sa face d'un nuage et se tait, que son deuil soit le deuil du monde, nous sentons bien que nous sommes tous atteints. Quelqu'un disait, si Paris est détruit, j'en perdrai le goût d'être un Européen. La ville lumière n'est pas détruite, elle s'est éteinte. Désert de hautes pierres sans âme, cimetière. L'envahisseur avait prophétisé, le 15 juin, j'entrerai dans Paris. Il y entre en effet, mais ce n'est plus Paris. Et telle est sa défaite irrémédiable devant l'esprit, devant le sentiment, devant ce qui fait la valeur de la vie. Je songe aux chefs de guerre qui traversent aujourd'hui ces rues les plus émouvantes du monde. Il ne les connaîtra jamais. Il ne verra que d'aveugles façades. Il s'est privé à tout jamais de quelque chose d'irremplaçable, de quelque chose qu'on peut tuer, mais qu'on ne peut conquérir par la force et qui vaut plus, insondablement plus, que tout ce que peuvent rafler dans le monde entier les servants des Panzerdivisionen, quelque chose d'indéfinissable et que nous appelions Paris. C'est ici l'impuissance tragique de ce conquérant victorieux. Tout ce qu'il veut saisir se change à son approche, Midas de l'ère prolétarienne, en fer tordu, en pierraille lépreuse. N'importe quel badaud d'un soir de juin pouvait s'annexer pour toujours. Le bonheur d'un couchant sur Saint-Germain-des-Prés, le grisant glissement de la foule de l'arc aux chevaux de Marly, les siècles de grandeur, de misère, de sagesse, dont le visage de cette capitale, plus douce et plus fière qu'aucune autre, portait les traces pacifiées, n'importe quel badaud, mais pas un conquérant. La confrontation stupéfiante de cet homme et de cette ville était peut-être nécessaire pour faire comprendre au monde entier qu'il y a des victoires impossibles. On ne conquiert pas avec des chars les dons de l'âme et les raisons de vivre dont on manque. Qu'ils fassent 10 fois le tour du monde, ils ne rencontreront partout que le fracas du néant mécanique, jusqu'au jour bien plus terrifiant que le jour de la pire vengeance, où s'arrêtant enfin, ils comprendront qu'aucun triomphe ne vaut pour eux la moindre des réalités humaines qu'ils ont tuées, car ils ne savent ce qu'ils font.
Article paru le 17 juin 1940, un jour avant l'appel du général de Gaulle. Et à cette époque, en Suisse, il y avait, disons, des articles de capitulation avant le discours de Pilegola. Aussi d'autres articles qui ont suivi le vôtre de journalistes alémaniques qui étaient eux aussi courageux. Mais enfin, Denis de Rougemont, vous avez été le premier. Alors, quelle réaction en Suisse, chez vos supérieurs militaires?
Tous mes collègues sont venus me féliciter. Moi, je trouvais, j'ai lu l'article à 7h du matin en arrivant à mon bureau, j'ai trouvé qu'il était plutôt sentimental, je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait à la hauteur des circonstances. Mais au fond, non, j'avais tort de penser cela, parce que c'était le premier article qui annonçait la défaite d'Hitler, n'est-ce pas, comme étant irrémédiable. Devant ce qui fait la valeur de la vie, comme je le disais. Et, au fond, c'était un article d'espoir, et pas seulement de nostalgie profonde de Paris. Et c'était un article qui annonçait que les Hitlériens, les totalitaires en général, ne pouvaient pas gagner, finalement, parce qu'ils ne gagnaient rien. Ils ne gagnaient que des choses qu'ils tuaient. J'ai donc été très vivement félicité par tout le monde, mais à la fin de la journée, j'ai reçu un téléphone du chef des services de renseignement de l'armée suisse, qui m'a demandé si j'avais eu la permission de mes supérieurs. Je lui ai dit que non, pour écrire cet article, que je n'avais pas à la demander, n'étant pas un officier de carrière, et n'ayant pas signé de mon grade. Et il m'a dit que j'étais accusé d'insulte à chef d'État étranger et de mettre en péril la sécurité de la Suisse. Il a ajouté « c'est grave, c'est très grave ». Terminé, et il a reposé le cornet. Alors, le lendemain matin, quand je suis arrivé au bureau, mon colonel chef du bureau m'a fait venir, m'a demandé que je lui donne mon pistolet, ce qui voulait dire que j'étais en état d'arrestation, et m'a expliqué qu'on allait me faire reconduire chez moi avec deux soldats baïonnettes au canon, mais comme on ne les avait pas sous la main, c'était un lieutenant-colonel qui allait me raccompagner en taxi. Et puis toute la journée, j'ai comparu devant toutes sortes d'officiers généraux qui me disaient « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Je leur disais absolument rien, je suppose que vous êtes d'accord. C'était un terrain sur lequel ils ne pouvaient pas s'engager, naturellement. Et alors, j'ai été condamné quelques jours plus tard, après avoir passé 3 jours d'arrêt de rigueur chez moi, j'ai été condamné par le général en chef à une peine de 15 jours de forteresse au pain, à l'eau, sans visite ni courrier, répété. Et mon colonel qui m'annonçait cela m'a dit maintenant repos, j'espère que vous avez bien compris que depuis ce moment, vous êtes au fort de Saint-Maurice dans le Valais, au pain, à l'eau, sans visite ni courrier. Tout ce que je vous demande, c'est de pas sortir dans les rues de Berne tous les soirs avec une petite femme à chaque bras, parce qu'on a besoin de vous au bureau. Alors j'ai bien compris, il m'a dit quelle observation avez-vous à faire sur la chose. Je lui dis aucune, mon colonel, j'ai toujours été pour les vacances payées, qui n'existaient pas encore à ce moment-là. Je suis donc tout à fait d'accord. Alors, ces vacances de 10 jours, je les ai utilisées de mon mieux, a lancé ce que nous avions appelé la Ligue du Gothard, c'est-à-dire le premier mouvement de résistance qui soit enregistré en Europe.
Effectivement, donc, on avait besoin de vous et le général avait besoin de vous. J'ai entendu dire que le fameux discours du 1er août du général, vous aviez contribué tout au moins à le rédiger. Qu'en est-il exactement?
Oh, ça, c'est un incident plutôt comique. Quoique d'assez grandes répercussions, je dirais, historiques pour la Suisse, le général Guizan, général en chef de l'armée suisse, devait prononcer à la radio, pour toute la nation, un discours de 1er août, jour de la fête nationale. Et il n'avait pas le temps de le faire, naturellement. Il avait demandé à 4 officiers de le rédiger pour lui. Ces 4 officiers n'étant arrivés à rien, à aucun résultat, comme on pouvait l'attendre, 4 officiers, sont venus me demander, quand j'étais encore soi-disant en prison, dans mon fort, dans mon cul de Basse-Fosse à Saint-Maurice, sont venus me demander aide. On dit, après tout, vous êtes écrivain, c'est votre métier, voulez-vous écrire ce discours? Alors, moi, j'ai fait ni une ni deux. Comme j'étais en train d'organiser ce mouvement de résistance, la Ligue du Gothard, fondée autour, symboliquement, du massif central du Gothard, qui est le lieu de croisement des deux grandes chaînes alpestres en Suisse, et qui me paraissait un point idéal de défense, non seulement physiquement, mais symboliquement, parce que c'est à l'occasion de l'ouverture du col du Gothard au XIIIe siècle que la Suisse a commencé d'exister, pour défendre ce col pour toute l'Europe. Je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire dire au général. Et j'ai bâti le texte que j'ai écrit, de 4 pages, je crois, entièrement sur cette idée de la résistance à tout prix des Suisses autour du Gothard, symbole des débuts de leur histoire et bastion de leur liberté actuelle. Alors, j'ai écrit ces 4 pages, assez facilement, j'avais tout mon temps, n'est-ce pas, j'étais en forteresse, et je l'ai envoyé aux officiers qui m'avaient demandé ça. Et le général y a fait ajouter 4 ou 5 lignes dans le style patriotique qui était nécessaire, paraît-il, mais il n'a pas changé une virgule à mes 4 pages. Et il l'a prononcé à la radio le 1er août, ça lui a valu une immense popularité dans tous les cantons suisses.
Les idées d'un homme doivent être vécues, nous disait Denis de Rougemont au micro de Gérard Valbert en 1980 sur les ondes de Radio Lausanne. Une pensée à la source de l'engagement de l'intellectuel, engagement pris dès la Seconde Guerre mondiale et qui se prolongera par la suite par une réflexion approfondie et fondamentale sur la construction de l'Europe. Un hommage dans Babylone à l'occasion des 40 ans de l'édition définitive de L'Amour et l'Occident en 1972, avec aussi Henri Guillemin qui critiquait cet ouvrage dans une première partie dans un enregistrement de 1968. Toutes les informations concernant cette émission sur babylone.rsr.ch, le site remis à jour par Nicole Corpato. Babylone, c'est une production de Nicole Duparc et David Collin. Vous écoutez Espace 2, il est 10h.